Conférence en juillet 2021 à Fountain Valley. Le fardeau de la parole du Seigneur dans Malachie, message 10. Ouvre nos yeux. Nous te demandons de bénir tous les chers frères et sœurs dans le monde. Et particulièrement, appelle ceux qui cherchent ceux qui te cherchent. Père, afin que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans les cieux. Amen. Nous te donnons la communion de cette dernière réunion. C'est très important que nous connaissions Dieu. Pas de connaître la doctrine. Je sais, tu me diras, nous avons besoin de la Bible. Bien sûr qu'on a besoin de la Bible. Et nous aimons la vérité. Mais pas la théologie. Pas l'interprétation de l'homme concernant la Bible. Pas des enseignements merveilleux, des bons messages. Non, nous voulons entendre ce que l'Esprit nous dit aujourd'hui. Ne pensez pas que si vous connaissez la Bible et que vous avez lu tant de livres, c'est OK. Non, aucun de nous n'est OK. Il nous faut un cœur pour connaître le Dieu vivant. Pendant les 50 dernières années, j'ai vu qu'on savait tellement au sujet de la Bible, qu'on a entendu tant de messages de toutes sortes d'enseignants par le monde. Je ne veux pas être un enseignant. Je ne veux même pas parler, mais je n'ai pas le choix. Nous voulons entendre ce que lui dit. Nous voulons le connaître. Nous voulons l'expérimenter. C'est pourquoi le sacerdoce est si important. Pas juste de connaître la Bible, mais d'expérimenter ce Christ merveilleux jour après jour. Vivre Christ. C'est difficile à expliquer. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Tu le connais, tu le connais. Et c'est notre désir. Seigneur, nous voulons te connaître. C'est ce que Paul dit dans Philippiens. Je veux le connaître. La puissance de sa résurrection, même la communion de ses souffrances, et même être conforme à sa mort, tout ça, ce ne sont pas des doctrines, afin d'obtenir la meilleure résurrection. Tout ça, ce n'est pas une question de doctrine, mais de notre expérience avec lui. On a entendu beaucoup de messages. Notre vieil homme a été crucifié avec Christ, mais nous sommes très vivants dans notre vieil homme. À quoi ça sert? À quoi ça sert? On a tant d'enseignements, de connaissances. On a tellement parlé de l'esprit, mais personne ne vit selon l'esprit. On a tellement parlé de l'édification. Je ne pense pas que quiconque parle plus de l'édification que nous. On parle de l'Église, de l'Église, de l'Église, de l'Esprit, l'Esprit, l'Esprit. La vie, la vie, la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi toi-même ce qui s'est passé. Franchement, je suis fatiguée de cela. Je ne suis pas fatiguée de l'Esprit, mais je suis fatiguée de juste la parole et l'enseignement. L'enseignement au sujet de l'esprit, ça n'a aidé personne. Je savais tant de choses par le passé. On a parlé de la vie. La vie ceci, la vie cela, les études de vie, la vie encore cela, la vie, la vie. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que tu n'en es pas fatigué? Peut-être que tu n'es pas fatigué de cela, mais moi j'en suis fatigué. Je veux la réalité. Je veux la substance. Je veux pratiquer. Je veux être quelqu'un qui vit selon cette vie merveilleuse en moi. Je veux avoir une oreille pour entendre l'onction qui m'enseigne. Pas un enseignant quelque part. j'aimerais ne pas être debout devant vous. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Nous devons être les vrais messagers. La lettre tue. Mais c'est l'Esprit, seul l'Esprit, le Seigneur, qui donne la réalité de la vie. Ainsi, vous avez remarqué que dans Malachie, la parole du Seigneur est très différente que les pasteurs ou que ceux qui disent qu'ils sont apôtres, ceux qui aiment parler de la Bible. C'est très différent que la parole de Dieu. Même dans l'Apocalypse, quand le Seigneur parle aux églises, il parle de manière brève, droite et au point. C'est la même chose. Le Seigneur ici expose la vraie condition. Souvent, comme ici dans Malachie, nous, je ne parle pas des autres, mais nous, on ne connaît même pas notre vraie condition et nous pensons que nous sommes pas mal. Es-tu content de ta vie spirituelle? Pas moi. J'ai beaucoup à apprendre. Je ne sais pas ce qu'il en est de toi. Es-tu satisfait? Es-tu heureux? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Parce que nous avons encore beaucoup à apprendre. Parce que Dieu a encore beaucoup à œuvrer en nous, à raffiner en nous. Après avoir été chrétien pendant tant d'années, ne pensez pas que je sois content. Non. Paul dit, je l'ai souvent mentionné, je n'ai pas déjà atteint et je ne suis pas encore parfait. Non. Malheur à toi si tu penses que tu es déjà parfait. Non, nous ne sommes pas OK. Non, tout n'est pas bon. Bien que je sois debout là, je ne sais pas pourquoi je suis debout ici. Mais on doit tous apprendre ensemble à nous encourager les uns les autres, à pratiquer le sacerdoce, à amener des offrandes. Combien d'années maintenant on a été en train d'apprendre et on n'est encore pas parfait? Depuis 2015, c'est là. Mais en fait, on a commencé à en parler en 2014. Je ne sais pas si je dois commencer à compter depuis là ou pas. Je n'ose même pas compter cette année-là comme le commencement. Bon, alors, en 2015, on a commencé à pratiquer. Parce qu'on a rencontré tant d'opposition. Particulièrement les jeunes en Europe. Ils ont eu beaucoup de problèmes parce qu'ils voulaient pratiquer. Ils voulaient commencer à pratiquer d'apporter des offrandes au Père. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce serait beaucoup plus simple si on n'avait pas besoin de faire cela. On n'aurait pas de problème. Mais, si c'est ce que Dieu veut, d'avoir les vrais adorateurs, qui n'adore pas juste en se prosternant et en chantant quelques chants, mais les vrais adorateurs, en esprit et avec la réalité de Christ en tant qu'offrande. Ça, c'est comme ça que Dieu veut que nous adorions. Je n'ai pas le choix. Croyez-vous que c'est ce que je préfère? Si cela n'en tenait qu'à moi, je préférerais ne rien faire. Mais, qu'est-ce que je peux dire? J'espère que vous tous, vous êtes contents que nous apprenions à être ces sacrificateurs. Est-ce que vous êtes vraiment contents? quand j'ai vraiment vu les offrandes ce matin de la part des frères et sœurs. J'étais si reconnaissant au Père. Il y a vraiment de l'amélioration. C'était vraiment merveilleux, très encourageant. J'espère que le Père est content. Seigneur, et en ayant la communion ce matin, au sujet du raffinement, de l'œuvre de raffinement, Dieu a beaucoup à raffiner en nous, même dans ce monde. Pour raffiner de l'or et pour le garder à 99,95, je crois, %. S'il n'est pas bien raffiné, tu trompes les gens. Il y a beaucoup de tromperies. Mais peux-tu imaginer notre Dieu bâtissant la nouvelle Jérusalem céleste, c'est avec de l'or pur, même comme du cristal, transparent comme du cristal. Transparent. Personne ne peut voir un tel or. On n'a jamais vu d'or transparent. C'est un or spécial. Penses-tu que Dieu soit content si tu es raffiné à 90%? Tu es purifié à 90%? Ça suffit? Est-ce que tu penses que Dieu va dire ça suffit, c'est bon? Ce n'est pas suffisant pour Dieu. Ne pense pas que ce soit suffisant. Que penses-tu de 99,9%? Dieu dira, non, je ne suis pas content. Ça ne suffit pas pour Dieu. Notre Dieu est parfait. Et il sait ce qu'il fait. Il veut nous amener dans la gloire pleinement. Tu crois que c'est un travail facile? Quand je me regarde, je dis, John, combien es-tu glorieux? Es-tu glorieux? Qui est glorieux? Es-tu? Il n'y a que lui qui est glorieux. Et tu penses qu'il est content d'être glorieux tout seul? Pourquoi est-ce qu'il a envoyé son fils comme capitaine de notre salut? Pourquoi? Pour conduire beaucoup de fils dans la gloire. Ne l'as-tu pas lu dans Romains 8? Il ne nous sauve pas seulement, il ne nous justifie pas seulement, mais il nous sanctifie et il va nous glorifier. Est-ce que tu crois qu'il va s'arrêter? C'est mieux pas. Vraiment, il ne va pas s'arrêter, c'est certain. Qui est perfectionniste ici? Peut-être les Suisses. Les Suisses sont parfaits, sont perfectionnistes, pardon. Ils essayent de tout faire parfaitement. Laissez-moi vous dire, Dieu est un perfectionniste. Il ne sera pas satisfait jusqu'à ce qu'il ait fini son travail. C'est pourquoi il est assis là comme celui qui raffine. Ce n'est pas facile d'être assis là depuis si longtemps jusqu'à ce qu'il ait fini le travail. Il n'a pas fini avec toi, avec moi non plus. Il n'a pas encore terminé. Et croyez-moi, il ne peut pas finir ce travail dans cet âge. S'il ne peut pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le faire dans l'âge suivant. Alors, quand veux-tu qu'il finisse son travail? Es-tu sûr? Il va s'asseoir là en tant que celui qui raffine l'argent et l'or. Jusqu'à ce qu'il voit. Et quelqu'un quelque part a dit que quelqu'un qui raffine l'or et l'argent, la question est, comment sais-tu que l'argent est pleinement raffiné? Combien de temps est-ce que ça prend? Il a dit, ben, ça prendra aussi longtemps qu'il faut. Comment sais-tu que c'est prêt? La réponse c'était, lorsque je regarde cet argent et que je peux voir si clairement mon image qui est reflétée dans l'argent, alors c'est prêt. Oh, ça c'est vraiment la parole, la vraie parole. Wow. Maintenant, lorsque le Seigneur te regarde et me regarde, qu'est-ce qu'il voit? Il te voit toi ou il se voit lui-même? Je sais, tu diras, oh, arrête. Ben, oui. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que tu veux entendre? Et il est le vrai, celui qui raffine. Il n'est pas un raffineur terrestre d'argent. Et lorsque le travail est terminé, c'est jusqu'à ce qu'on soit pleinement conforme à l'image du Fils premier-né de Dieu. Jusqu'à ce que, quand il nous voit, il voit sa propre image en toi. Alors, c'est fait. Est-ce que tu as ce concept? Vince, maintenant oui. Souviens-t'en. Tu dois demander au Seigneur, « Seigneur, est-ce que je te ressemble maintenant ?» Ça, c'est le travail de celui qui raffine. Cela prend du temps. Cela prend du temps. Particulièrement avec nous, parce que nous sommes rebelles. Nous partons. Nous ne coopérons pas si bien. Et c'est difficile pour nous de changer. Je le sais. Je suis un être humain comme vous. C'est si difficile de changer. Par moments, je suis déçue de moi-même. Je dis, Seigneur, combien de temps est-ce que ça va prendre pour que tu me changes? Je veux changer. J'espère que toi aussi. Pour être transformé de gloire en gloire, jusqu'à ce que l'œuvre soit faite. Jusqu'à ce que le Seigneur puisse voir son image reflétée par nous. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur aujourd'hui. Et c'est ça que ça veut dire d'être sauvé parfaitement, d'être sanctifié complètement, entièrement, esprit, âme et corps. Être saint et sans défaut à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul et Pierre, lorsqu'ils disent ces paroles, ils y pensaient vraiment. Ce n'est pas étonnant que ces chers apôtres qui étaient devant nous, ils ne parlaient pas seulement des doctrines. Ils avaient vraiment le désir d'être pleinement transformés. Est-ce que vous croyez que Paul parle que de la théorie de la transformation? Certainement pas. Mais pour nous, c'est une doctrine. Et on l'a entendue, et je l'ai entendue, et on l'oublie. On ne prend pas la parole de Dieu sérieusement. Et à la fin, regarde, tout le sacerdoce, tout le pays a été corrompu. Continuons. Au chapitre 3, verset 13. Le Seigneur a quelque chose d'autre à dire. Nous pensons, en lisant Malachie, que la plainte du Seigneur est trop dure. Mais le Seigneur se plaint à eux. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Combien de fois est-ce que tu te plains contre Dieu? Seigneur, pourquoi cela? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Comment ça se fait que je crie à toi depuis si longtemps et que tu ne m'écoutes pas? Comment ça se fait que d'autres vont bien et pas moi? N'est-ce pas? Et tu as passé par des situations et tu es rejeté et tu dis, Seigneur, pourquoi? Ils ont tort, j'ai fait juste et c'est moi qui souffre et pas eux. On dit beaucoup de paroles. On se plaint contre Dieu. N'est-ce pas? On se plaint contre Dieu. Mais je suis si heureux que notre sœur se soit rapidement tournée. J'aimerais être si rapide. Seigneur, pardonne-moi. Oh, Seigneur Jésus, j'espère qu'on peut se tourner si vite. C'est très important. On dit beaucoup de paroles rudes contre lui. On ne le comprend pas. Est-ce que Dieu veut qu'il te bénisse et qu'il te donne tellement que tu sois corrompu comme les gens du monde? Veux-tu avoir tout dans ce monde? Le Seigneur sait ce qui est bon pour nous. Seigneur, pourquoi est-ce qu'il ne souffre pas ce que nous souffrons? Et nous, les chrétiens, sommes persécutés. Les gens se moquent de nous. Et on a tant de problèmes. Et eux, ils entendent bénédiction. On se plaint. Nous ne sommes pas contents. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? On ne sait même pas, on ne réalise même pas que nos paroles sont vraiment rudes contre lui. On se plaint beaucoup. Et puis, le Seigneur dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Je connais beaucoup de gens qui, au commencement, aimaient l'Église. Ils aimaient le grand mystère, Christ et l'Église. Puis ils ont eu tant de problèmes. Et à la fin, ils ont été jetés, rejetés et ils se plaignent, ils sont si amers. J'ai donné toute ma vie. Et voilà ce qui m'arrive. Oublie l'Église. Oui. Dis à Christ d'oublier l'Église. Est-ce que tu aimes encore l'Église après avoir été rejeté? Oui, tu n'aimes pas cette sorte d'Église. Mais l'Église que Christ aime, tu dois l'aimer. L'Église, regarde l'Église catholique. Oublie la foi. Je suis pleinement déçue. J'ai entendu beaucoup de gens qui disaient ça. Mais est-ce que c'est la faute de Christ? Est-ce que c'est la faute de Dieu? Pourquoi est-ce que tu ne cherches pas la vérité? plutôt de chercher la vraie vérité, tu as dit, ça c'est l'Église, ça c'est Dieu. C'est terrible. Je ne veux pas Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, ce sont des paroles rudes. L'unité, vous parlez de l'unité. Je ne sais pas ce que c'est comme unité. Alors oublie l'unité. Mais la vraie unité que le Seigneur veut, que le Seigneur Jésus veut, c'est l'unité comme le Père est un avec le Fils et le Fils un avec le Père. Ça, c'est l'unité. Ça, c'est la vraie unité qu'on veut. Et le but de Dieu, c'est de nous amener dans cette unité-là afin qu'il soit en nous et que nous soyons en eux, si je peux dire, comme le Fils est dans le Père. J'aime cette unité. Ça, c'est la vraie unité. Parce que tu ne cherches pas l'unité, tu dis l'unité, oublie. Tu dis de paroles rudes contre Dieu. C'est parce que tu ne le cherches pas. Est-ce que tu ne veux pas être un avec le Père, comme le Seigneur Jésus est un avec le Père, et le Père est en lui, et lui est dans le Père? Et maintenant, nous aussi, nous devons être amenés dans cette unité, la communion avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ. Dieu veut nous amener dans cette communion-là. Mais si tu ne comprends pas cela et que tu es dans une communion étrange, la communion, oublie ça. À la fin, tu es tellement confus et tu es fâché, tu es amer et tu dis des paroles rudes contre Dieu. Oublie l'unité. Et les pires divisions arrivent. À qui est la faute ? La faute de Dieu ? C'est notre faute. Ma faute. Parce que je n'ai pas compris ce qu'est la vraie unité. Je ne cherche pas la vraie unité. J'écoute ce que l'homme dit ceci, cela, et finalement ça devient une unité bizarre. Il y a beaucoup d'unités différentes dans ce monde. À qui la faute? La faute de Dieu? Ne parlez pas des paroles rudes contre Dieu. Ne le blâmez pas. Les gens blâment Dieu. Seigneur, est-ce que j'exagère en disant cela? C'est un vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes? Regardez ce qui est arrivé. Et à marcher avec tristesse, on a tellement souffert à cause de l'Éternel des armées. Mais regarde, on a perdu tant de temps là. À qui la faute? Et maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Regardez cela. Où est le Dieu de la justice? Vous ne faites pas cela? Je ne sais pas si vous le faites ou pas. Mais verset 16, il y a un autre groupe de saints. Et j'espère que ce sont les Lévites, ceux qui craignent l'Éternel. Si tu ne crains pas le Seigneur, tu vas dire beaucoup de paroles rudes en blâmant Dieu. Et tu dis, ça ne marche pas, oublie. Dieu, tes promesses, ta parole dans la Bible, ça ne marche pas. Ça ne marche pas? Regardez la situation aujourd'hui. Regardez tant de divisions parmi le peuple de Dieu. En es-tu content? Est-ce que tu vas blâmer Dieu pour cela? Est-ce que tu vas lui dire, Dieu, ton plan ne fonctionne pas? Est-ce que tu as déjà dit ça? Seigneur, es-tu sûr que ça marche? Un frère en Italie, il ne vit plus. Il m'a dit, je l'ai entendu de lui, il m'a dit, si ça continue comme c'est ça maintenant, Dieu sera comme dans Genèse, il sera à nouveau tout seul. Au commencement, Dieu. Dieu va recommencer au début. Il n'y aura rien d'autre que Dieu. J'ai tellement rigolé. Parce qu'il le disait en plaisantant. Mais, humainement parlant, dans un sens, je me suis dit, oui, t'as raison, frère, t'as raison. Tu n'es pas très loin de la vérité. Mais j'avais vraiment tort. C'était des paroles vaines. Souvenez-vous, ce que le Seigneur a dit dans Matthieu. Toute parole vaine qui sont sorties de votre bouche, vous en rendrez compte. Vous serez jugé. Pas seulement des mauvaises paroles, mais toute parole vaine. Ça, c'est dans Matthieu 12. Bref. Maintenant, ceux qui craignent l'Éternel, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent. Comment est-ce qu'on se parle? Regardez la situation, c'est si terrible. Est-ce que c'est l'Église? Si c'est l'Église, comment est-ce que ça se fait que c'est ainsi? Et alors on critique. Et alors on part. Mais ce n'est pas ainsi que ceux qui craignent l'Éternel se parlent. Ils se parlèrent l'un à l'autre, avec un cœur et un esprit qui craint l'Éternel. L'Éternel fut attentif et il l'écouta. Ne pensez pas que le Seigneur n'écoute pas. Le Seigneur écoute. Il n'est pas sourd comme moi. On n'a pas d'oreille pour l'écouter, mais le Seigneur écoute tout ce qui sort de notre bouche. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Avez-vous déjà entendu parler d'un livre de souvenirs? Timo, est-ce que tu te souviens d'un livre de souvenirs? Non. Parce que c'est écrit dans ce dernier livre de l'Ancien Testament. Il y a un livre de souvenirs dans la Bible. Tu as le livre de la vie. Vous connaissez tous ce livre de la vie, n'est-ce pas? Et vous vous préoccupez que de ça. Dans Daniel 10, il y a le livre de la vérité. Qu'en pensez-vous? Dieu a déjà mis tout ce qui va se passer. Il l'a dit dans le passé, parce qu'il connaît le passé. Même l'Apocalypse, ce sont les vérités, ce qui va se passer. toute parole qui est dans l'Apocalypse va être accomplie. Attendez, vous allez voir que ça va s'accomplir exactement de la manière dont c'est écrit. Que pensez-vous du livre de souvenirs? Tout ce que tu dis, tu ne pourras pas dire un jour, Seigneur, j'ai oublié. Le Seigneur va te dire, tu ne t'en souviens plus, je vais t'aider à t'en souvenir. Gabriel, donne-moi le livre de ce que John So a dit. Je partirai en courant. Ce sera enregistré. Comme dans Esther, le roi a un livre pour noter tout ce qui a été fait, spécialement les bonnes choses qui sont faites au roi. Et le roi a une récompense pour eux. Le roi, souvenez-vous, ne pouvait pas dormir la nuit. Parce que le Seigneur ne lui a pas donné un bon sommeil. Ainsi, il a dit à son serviteur, « Amenez-moi le livre du souvenir. J'aimerais lire. Lisez-moi. » Et il disait quelque chose de bien à propos de Mardochée. Vous connaissez l'histoire. Il y a un livre de souvenirs. Qu'en est-il de cela? Un livre de souvenirs. J'espère qu'il y a un bouton pour supprimer. Le Seigneur se souvient de ce que ceux qui le craignent ont dit. Souvenez-vous, beaucoup de livres sont ouverts devant le grand trône blanc du jugement. Beaucoup de livres sont écrits pour juger les incroyants. Crois-tu que tu vas échapper? Non. Tout est noté. Personne n'a rien à dire. Tu ne peux pas dire au Seigneur, j'ai oublié. Mais non, Seigneur, je n'ai pas dit ça. Le Seigneur dira, amène la vidéo. Rafraîchissons son souvenir. Le livre de souvenirs. Mais je suis content de ce livre de souvenirs. Parce que le Seigneur n'oublie pas ce que ceux qui le craignent se disent l'un à l'autre. Ainsi, faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous dites. Parce que quelqu'un prend note. J'aime ce livre. Le livre de Malachie. Parce qu'il m'avertit. Fais attention à ce que tu dis. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom ou qui méditent sur son nom. Ce que nous pensons, même si nous n'avons rien dit de notre bouche, mais même ce que nous pensons, le Seigneur le sait. Même si on ne l'a pas dit, il sait déjà tout, n'est-ce pas? Et le Seigneur, verset 17 dit, « Il, ces gens qui me craignent et qui méditent sur mon nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. » Ce sont mon trésor spécial. Pas juste qu'ils m'appartiennent, mais c'est mon trésor spécial. Mon trésor particulier. N'avons-nous pas lu que le Seigneur veut faire de son peuple son trésor particulier? Voulons-nous être ce trésor particulier? Oui. Amen. Regardez tous ces trésors particuliers magnifiques. Tu diras, mais on est juste quelques-uns. Oui, un trésor particulier est très rare, tu sais. Montre-moi ton trésor particulier à la maison. Est-ce que tu as un garage rempli de trésors particuliers? Non, tu as un garage rempli de fourmis. De déchets. C'est là que je mets les déchets. Mais montre-moi ton trésor particulier. Combien en as-tu? C'est très rare. Très rare. Soyons ceux qui sont ce trésor pour le Seigneur. Très rare. Les perles de grand prix. Ils cherchent une perle de grand prix. Et le Seigneur a tout payé pour cette seule et unique perle. Que le Seigneur ouvre nos yeux. Ça, c'est la vérité de ce que la parole de Dieu dit. Et nous devons savoir ce qu'il cherche. Ne pensez pas que le Seigneur cherche un trésor dans un tas de détritus. Non, il cherche des trésors. Il regarde. Regardez la Nouvelle Jérusalem. Et le Seigneur dit, je les épargnerai. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. C'est vraiment merveilleux. Nous voulons être ses fils qui le servent en tant que sacrificateurs dans sa maison, qui sont fidèles, véritables et sages. Amen. Et lorsque cela arrivera, parce qu'à la fin, ils disent « Où est le Dieu de justice ?» Ils disent des paroles dures. Ceux qui en font tant de choses, on dirait qu'ils ont tout gagné. Et nous ? Est-ce que tu aimerais être comme eux ? Attends seulement. Attends seulement. Parce que la fin n'est pas encore là. À la fin, tu seras heureux de ne pas être comme eux. Mais seulement à la fin, tu réaliseras cela. Juste maintenant, il semble qu'eux sont heureux. Et pas toi. Tu n'as pas un si bon moment. Attendez la fin. Et vous verrez. Eux termineront à un certain endroit dans le lac de feu. Alors, vous discernerez vraiment, vous verrez vraiment la différence entre le juste et le méchant. Alors tu sauras, tu diras, « Oh, je suis si heureux de ne pas être de ce côté-là, comme Lazare, le pauvre mendiant et l'homme riche. » On n'a même pas son nom, au nom à l'homme riche. Pendant qu'ils étaient sur la terre, pensez-vous que Lazare disait « Pourquoi je suis comme ça et regarde cet homme riche ? Est-ce que tu es envieux de lui ? Tu l'envies ? Mais après, cette vie, vous savez où chacun d'eux est allé. Qui préfères-tu être, Lazare ou le riche ? Mais tu ne le réalises qu'après, une fois que tu es là-bas. Avant, tu penses, Pourquoi je crois en Dieu? Ai-je essayé de faire ce que Moïse dit? Ai-je suis les statuts, les ordonnances? Et que je suis là-dehors? Et que cet homme riche qui se préoccupe pas de la loi de Moïse et qui ne croit même pas en Dieu, et lui, il jouit de la vie. Qu'est-ce que tu vas dire? Quelle vie préfères-tu? Celle de Lazare. Oui, tu as raison. Ne sois pas Ésaü. À nouveau, je reviens à ce point. Pour seulement un petit peu de jouissance, tu vends ton droit d'aînesse. Non. Non, ne sois pas comme cela. Et vous verrez, de nouveau, ça veut dire, alors, à ce moment-là, finalement, vous vous réveillerez et vous verrez la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Louez le Seigneur. On veut être ceux qui servent Dieu. Même si on souffre un peu, mais Paul dit, les souffrances d'aujourd'hui ne peuvent pas être comparées à la gloire si grande qui nous sera donnée à sa venue. Maintenant, allons au dernier chapitre. On a atteint le dernier chapitre. Seigneur, le dernier chapitre parle du jour grand et redoutable de la colère de Dieu. Ça, c'est la deuxième venue du Seigneur. Et c'est très similaire. Et en fait, c'est exactement le jour où le sixième sceau est ouvert et que tout le monde connaîtra. C'est une mauvaise nouvelle. Le jour de la colère de Dieu est là. Mais c'est trop tard. Et tu n'as pas d'endroit où cacher, où te cacher. Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu nous dit déjà aujourd'hui ce qui va se passer. Que tu le crois ou pas, ça dépend de toi. Ça te regarde. Mais dis pas, Seigneur, je ne savais pas. Non, c'est écrit. Ne dis pas, Seigneur, quoi? Je croyais encore avoir du temps. Seigneur dira, tu n'as pas d'excuse. Aucune. En fait, c'est écrit dans un langage simple à la fin de l'Ancien Testament. Voici, il faut le voir aujourd'hui. Ne le regarde pas à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est le moment de voir. Dis pas « voici, mais ça ne vient pas encore, Seigneur ». Oui, le jour vient. Personne ne sait quand. Et je suis encore jeune. Oui, tu es encore jeune. J'ai encore du temps. J'aimerais faire ceci, cela. J'ai l'énergie. Je veux vivre ma vie. Est-ce que tu penses que c'est la vie? Vas-y. Vas-y. Quand j'étais très jeune, ayant une balle dans ma main, et en la mettant dans le panier, je disais « Waouh ! Waouh ! J'ai réussi ! j'ai réussi. C'était tellement satisfaisant, jusqu'à ce que je rentre à la maison et c'était fini. C'était satisfaisant, oui. Juste un petit moment. Ça, c'est le monde. Que le Seigneur ouvre vraiment nos yeux. Il faut voir, il faut le voir aujourd'hui, maintenant, clairement. Croyez la parole de Dieu. Dieu n'est pas comme nous qui ment. Non, il n'est pas comme un homme qui ment. Et la parole de Dieu sera accomplie, c'est certain. Voici, regardez, regardez. Cela va arriver. Le jour vient vraiment. Et spécialement dans la prophétie de l'Ancien Testament, le jour, c'est le jour, c'est souvent mentionné. Spécialement dans Joël, par exemple. Le jour du Seigneur, c'est un jour terrible. Ce n'est pas un jour merveilleux pour certains. Pour nous, c'est un jour joyeux. C'est un jour de mariage. Mais pour les gens qui ne sont pas sauvés ou qui ne se sont pas préoccupés, même pour le peuple de Dieu, ardent comme une fournaise. Une fournaise. A toujours une température bien, bien plus élevée que le feu. Vous ne le croyez pas? Mettez-vous devant un four et ouvrez-le pendant que c'est si chaud. Vous verrez la chaleur qui sort vers vous. Un four à une haute température, c'est une fournaise. Une fournaise. Ardent comme une fournaise. Tous les hautains. Nous devons nous humilier. Nous devons nous humilier devant le Dieu vivant. Tous les hautains, oui, tous les méchants seront comme du chaume. Ils brûleront facilement. Le jour qui vient les embrasera. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 3. Vous souvenez-vous? Qu'est-ce qu'il disait? Cela dépend de comment vous bâtissez aujourd'hui, si vous bâtissez avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du foin, du chaume. Le jour du Seigneur qui vient comme un feu testera l'œuvre de chacun. Et il parle de nous, les croyants. Il ne parle pas des incroyants. Les incroyants, bien sûr, seront brûlés. Et Paul avait vraiment dû lire le chapitre 4 de Malachie. Parce que Malachie parle du chaume, de l'or et de l'argent. Le chaume sera brûlé, mais si tu es de l'or et de l'argent, plus tu as du feu, plus ça va te raffiner. Mais si tu es du chaume, un bout de bois, tu seras brûlé, dit l'Éternel des armées. C'est un avertissement. Malachie n'est pas juste un prophète, mais c'est l'Éternel des armées qui parle. Il ne leur laissera ni racine ni rameau, de la racine jusqu'aux branches. Il ne restera rien. C'est ce que Pierre dit dans 2 Pierre 3. Tout sera brûlé, roulé comme un manteau. sera embrasé par le feu. Sera, ouais, embrasé. Mais pour vous, à nouveau, il dit, qui craignez mon nom. Combien de fois dans Malachie, il parle de ceux qui le craignent, qui craignent mon nom. Oh Seigneur Dieu, souvenez-vous de ces paroles. La crainte de l'Éternel, dit Proverbe, elle est dans les psaumes. C'est le commencement de la sagesse. Oui. Pour vous, les Lévites, les sacrificateurs, ceux qui sont fidèles, qui craignent mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Il ne vient pas comme une fournaise, mais comme le soleil qui se lève. Est-ce que tu n'aimes pas le lever du soleil le matin tôt? Ou bien tu es effrayé, oh le soleil va me brûler? Non. Les gens aiment la Californie à cause du soleil. C'est pourquoi les touristes aiment venir. Je sais que beaucoup de saints aiment venir en Californie. Ils disent pourquoi? À cause du soleil, à cause du soleil de Californie. Ils ont raison. Parce que le soleil est très saint pour nous. Premièrement, il donne la lumière. Et il est, ça nous donne la bonne santé. Les animaux, les plantes ont besoin de soleil pour vivre. Le Seigneur a dit que la lumière soit. C'est la première chose que Dieu a créée par sa parole vivante. Et n'y restez pas trop longtemps parce que vous risquez d'être brûlé. Tu auras des coups de soleil. Mais assez pour te guérir. Personne ne peut regarder le soleil directement. Mais là, se lèvera le soleil. Si l'atmosphère est propre, comme c'était créé au début par Dieu, alors la lumière du soleil est vraiment saine. Mais aujourd'hui, à cause de toute la pollution, la lumière du soleil est vraiment dangereuse. C'est pourquoi il faut beaucoup de vitamine D. Mais ce soleil-là, le soleil de la justice, c'est comme le Fils de l'homme qui marche au milieu des chandeliers. Son visage brille comme le soleil. Et il fortifie, il donne la lumière et il guérit. La lumière du soleil est nécessaire pour notre santé et pour les plantes. Même les plantes savent. Lorsque la nuit vient, elles se ferment. Et même le chien, la nuit vient, il s'endort. Mais lorsque le soleil se lève, tout le monde est vivant. Est-ce que c'est pas vrai? Oui. Le soleil est quelque chose de merveilleux. De la lumière et il guérit. C'est le soleil qui se lève. Et la guérison sera sous ses ailes pour ceux qui le craignent. C'est pour ceux qui le craignent. Le soleil de la justice se lèvera. Parce que tous ceux qui sont justes n'ont pas peur de la lumière. Ils ne se cachent pas. Si tu fais quelque chose de mauvais, tu vas te cacher sous la table. Même un chien. Qu'il a fait quelque chose de pas, mauvais, pas bien, qu'il n'est pas obéissant. Sa queue descend entre ses jambes et il sait, même un chien sait. Mais si tu es juste? Tu veux marcher dans la lumière. Mais si tu fais quelque chose de mauvais, tu veux te cacher, tu veux pas que quiconque te voie. Et ce soleil est appelé le soleil de la justice. Le Seigneur dit, tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit, celui qui croit en moi, ne marchera pas dans les ténèbres. Dieu est lumière. En lui, il n'y a aucune ténèbre. Est-ce que tu aimes la lumière? Est-ce que vraiment nous aimons la lumière? Si tu marches avec Dieu, la première chose que tu réalises, c'est que Dieu est lumière. C'est ce que Jean dit, son premier message dans 1 Jean. Il dit, voici le message que Jean a reçu pour nous. Dieu est lumière. En lui, il n'y a aucune ténèbre. Tu veux avoir de la communion avec Dieu? Si tu marches dans les ténèbres, Jean dit, tu mens. Et la vérité n'est pas en toi. Et tu n'auras pas de communion avec Dieu. Si tu veux la communion, il faut que ce soit dans la lumière. Bien sûr, aussi dans son amour. Il y a la guérison sous ses ailes. Et vous sortirez. Vous n'êtes pas enfermé. Louez Dieu. Il n'y a pas de masque. Pas besoin de cacher votre visage pour que personne ne vous voie. Même le chien emploie sa patte pour se couvrir la face. Je n'aime pas me couvrir le visage. Nous sommes dans la lumière. La guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez. Vous sauterez. Vous sauterez. Comme des veaux jeunes et en bonne santé. Sauterez. Comme des veaux bien nourris. Comme des veaux bien nourris qui sautent, qui sont libres. Regarde ton petit chien là. Il aime être dehors et courir. Même tu ne peux pas l'attraper quand il est dehors. Surtout quelqu'un de vieux comme moi, je ne peux pas lui courir après. Parce qu'il est plein d'énergie. Plein de force. Bien nourri. Es-tu bien nourri? As-tu de la nourriture dans la maison de Dieu? Avec la parole de Dieu? Est-ce que tu es bien nourri de sa parole? Ou est-ce que tu préfères être confiné dans une étable? Vous foulerez les méchants. Vous foulerez les méchants. Car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare. Ce jour vient. Soyez assurés que ce jour vient. Ils ne vont pas gagner, c'est certain. Ils seront sous nos pieds. Ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare. Soyez patients. Pendant ce temps, sautez et sortez comme des veaux bien nourris. Pratiquez dans vos prières ces jours, ensemble, quand ils prient. On a juste combattu l'ennemi à droite et à gauche. Amen. Apprenez à employer l'épée de l'esprit. C'est juste. Vraiment. Apprenez à utiliser l'épée. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées, maintenant, que faites-vous? souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. C'est pourquoi Lévitique est si merveilleux pour nous. 10 pas, c'est l'Ancien Testament. Non, c'est les statuts de Dieu. Pensez-vous que Lévitique, amener un holocauste, ce n'est pas bon? Qu'en est-il de l'offrande de fleurs de farine? Est-ce que ce n'est pas une bonne nourriture pour toi? L'offrande de paix? Oh, c'est l'Ancien Testament. Tu crois que dans le Nouveau Testament, on peut se disputer, argumenter qu'on n'a pas la paix? Qu'en est-il de cela? N'aimes-tu pas la paix? Oh, c'est l'Ancien Testament. Mais non. Qu'en est-il de l'offrande pour le péché ou pour les transgressions? N'as-tu pas besoin du sang du Seigneur Jésus-Christ? N'as-tu pas de transgression? Est-ce que tu n'as pas de problème avec les transgressions? Qu'en est-il de la puissance de sa résurrection? Qu'en est-il d'être assis avec lui dans les lieux célestes? Qu'en est-il de l'offrande par agitation? De l'offrande pour élever? Non, on a besoin de la réalité aujourd'hui. Chaque parole là dans les statuts et ces jugements de Dieu, ça a une application pour dans notre vie aujourd'hui, notre vie chrétienne. J'ai passé par là, avec les saints. On a passé beaucoup de temps à voir toutes ces choses, pour les comprendre, ce que le Seigneur dit. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Moïse était un serviteur très fidèle du Seigneur. C'est le plus fidèle. Dans Hébreux 2. Soyez comme Moïse. Peut-être c'est au chapitre 3. Moïse. Mais celui qui est vraiment fidèle, c'est Christ. Ainsi, on peut voir Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël. Ne pense pas, on n'en a pas besoin. Sinon, Paul dirait pas, enfants, obéissez à vos parents. C'est le premier commandement avec une promesse. Paul, ça c'est l'Ancien Testament. Paul dirait, de quoi tu parles? Non. Honore ton père et ta mère. Tu ne dois avoir aucun Dieu en dehors de moi. Ou tu dois aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Oh, c'est l'Ancien Testament. Qu'en est-il d'observer le véritable sabbat? Pourquoi Hébreux 3, 4 parle de l'Ancien Testament, du sabbat? Christ est la réalité de notre sabbat aujourd'hui. Qu'en est-il de la nouvelle lune? Ou d'observer les fêtes? Ce n'est pas l'Ancien Testament. Souvenez-vous des préceptes et des ordonnances. Dieu est un Dieu juste. Pourquoi les jugements? Vous pensez que dans le Nouveau Testament, pensez-vous que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de jugement? Pourquoi est-ce que Pierre dit que le jugement commence où? Par la maison. Non, pas de jugement. Est-ce que tu crois que Dieu va nous juger? Est-ce que tu crois cela? Pierre a dû se tromper. Non? D'accord. Voici, au verset 5, il dit à nouveau, regarde. Verset 4, il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse. Et verset 5, voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Pourquoi, à la fin, il dit, je vous enverrai Élie, le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ne parle pas de sa première venue, mais de sa deuxième venue. Moïse et Élie. Moïse est célèbre. Tout juif connaît Moïse. Et tout juif connaît Élie. C'est le prophète favori. Et il n'y en a qu'un qui donne la loi. La loi a été donnée par qui ? Adam ? Noé ? Non. Qui ? Samuel ? Non. Qui ? Qui ? Moïse. Comment ça se fait que tu le sais ? Moïse était célèbre. Et le Seigneur a dit, souvenez-vous de la loi de Moïse. Beaucoup de gens disent, on n'a pas besoin de la loi. Si tu n'en as pas besoin, ok, mais moi oui. Tu ne dois pas commettre l'adultère. Tu ne dois pas convoiter. Maintenant, tu peux convoiter ? Tu peux voler ? Tu peux même tuer ? Tu peux commettre un meurtre ? Parce que tu n'as pas besoin de la loi, non ? Ça, c'est terrible de dire une chose pareille. La parole de Dieu ne passera pas. Chaque point va être accompli. Et Paul dit à la fin du chapitre 3 de Romains que nous n'abolissons pas la loi, nous établissons la loi. Ne l'avez-vous pas lu ? Ou est-ce que j'ai tort ? Je me trompe ? Si vous lisez le chapitre 11 d'Apocalypse, les deux témoins que le Seigneur va envoyer pour rendre témoignage aux Juifs à Jérusalem seront ces deux hommes merveilleux. Qui sont-ils à nouveau ? Qui ? Est-ce que ce sont des noms difficiles à se souvenir ? Vous savez, sur la montagne de la Transfiguration, qui a parlé avec Jésus ? Moïse et Élie, même Moïse, c'est cela. Oui, c'est merveilleux. Et de quoi parlait-il ? Un jour, quelque part, j'ai dit, je ne sais pas de quoi il parlait. Un frère est venu et m'a dit, bien sûr, c'est écrit qu'ils ont parlé de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, oui, donne-moi les détails. On ne connaît pas les détails. Il ne connaissait pas les détails, moi non plus. On pense qu'on sait de quoi il parlait, de sa mort. Ok, mais de quoi par rapport à sa mort ? Et le Seigneur a dit à Pierre, Jacques et Jean, ne parlez à personne. Ça m'a été scellé. Ces deux hommes seront envoyés par Dieu. Maintenant, ce n'est pas juste Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu pour la première venue et il leur demandait dans Jean 1, « Es-tu Élie ? » Qu'est-ce qu'il a dit ? Non. Il a dit non. Il l'a dit très clairement, « Je ne le suis pas, Élie. » Mais le Seigneur dit, il vient dans la puissance et l'esprit d'Élie. Oui, il est. Toutefois, il ne l'est pas. Il est Jean-Baptiste. Es-tu ce prophète? Il a dit non. Mais lors de la deuxième venue du Seigneur, ce n'est pas Jean-Baptiste qui va venir. Mais ces deux témoins, Moïse et Élie. Lisez tout le chapitre, vous trouverez que ces témoins ont fait exactement ce que Moïse et Élie ont fait quand ils étaient sur la terre. Ils avaient l'expérience, la pratique. Qui d'autre pouvait faire cela? Si tu me demandes de faire cela, je dirais, mais Seigneur, je ne peux pas. Je ne peux pas faire venir des grenouilles. Je ne peux pas changer l'eau en sang. Comment faire cela? Est-ce que tu peux faire cela? Tu n'es pas qualifié. Alors, qui est qualifié pour faire cela? Est-ce que tu peux demander au feu de descendre du ciel? J'aimerais parfois pouvoir faire cela. Non, personne ne peut faire cela. Ou faire arrêter la pluie. Ou faire venir la pluie, au contraire. Élie pouvait faire cela. Il avait l'expérience. Le Seigneur l'a entraîné. Et le Seigneur l'a entraîné au temps de Jézabel, afin qu'il puisse revenir à la fin. C'est merveilleux. Parce que ces deux, Moïse et Élie, le Seigneur les enverra à nouveau pour tourner ceux qui ont encore un cœur, pour se tourner vers le Seigneur. Et le Seigneur reviendra à eux. Souvenez-vous, le Seigneur dit, « Revenez à moi, et je reviendrai à vous. » Dieu donne à son peuple terrestre une chance finale de se tourner vers lui pour recevoir le salut. Alors, Dieu déversera l'esprit pour accomplir ce que Joël a dit, comme au jour de la Pentecôte. Ce sera leur Pentecôte. Ça sera la deuxième venue du Seigneur. Louez le Seigneur. Et s'il ne se tourne pas, il y aura une malédiction. Qu'est-ce qu'il dit? De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit, le Seigneur, à ce moment-là, frappera encore la terre. Je suis juste dans les temps.